100% raisin, carnet de dégustation par temps confiné. Épisode 3, le jardin d'Éden. Quatrième semaine de confinement. Un mois s'est écoulé. Un mois sans dégustation, sans vignoble et sans coteaux, sans ciel et sans feuillage, sans paysage et sans regard. Un mois sans odeur, ni de bois de chêne à la cave, ni de terre éveillée par la rosée, ni de jus bruissant sous la fermentation, pas même de liège ou de carton humide. Un mois sans goût, celui du raisin, du vin jeune dans ses limbes, brouillé et encore indécis, ou de vins plus matures, affichant leurs pleins et leurs déliés en des arabesques infinies. Un mois presque sans bruit, de lames sur la capsule, de bouchons libérés, de bouteilles qui se cognent et de verres qui se cassent. Et soudain l'envie de partir ailleurs me saisit, pour changer de rives et de fleuves, troquer la Seine contre le Rhône et descendre jusqu'à Vienne, retrouver mes amis, leurs maisons, leurs vignobles balbutiants. Florence et Jean-Charles Fournet sont ce que l'on appelle des néo-vignerons, de ceux qui ne sont pas viticulteurs de père en fils depuis 14 générations. Le poids de l'héritage en moins, inexpérience en plus, ils se sont lancés à corps perdu, il y a de cela 6 ans, dans ce projet un peu fou, un peu flou, l'aventure d'une vie, celle de créer leur propre domaine pour y produire leur vin. Néophytes tous deux, lui radiologue, elle orthophoniste, ils se sont au départ entourés des avis précieux de leurs amis vignerons, trop curieux de trouver là, dans cette expérience inédite, un laboratoire grandeur nature. Le château Le Devet est d'abord le lieu de vie de la famille Fournet. C'est une propriété du 18e, autrefois maison de repos de l'archevêque de Vienne, entourée de nombreux bâtiments agricoles, de 21 hectares de terre dont le cadastre atteste la présence passée de vignes, et qui est coiffée, à son sommet, d'un toit rutilant de tuiles bourguignonnes qui scintille dans l'horizon et que l'on aperçoit à 1 kilomètre à la ronde, comme un phare éclairant la campagne. Autour de leur maison, le vallon était brut, primaire et encore vagabond. Désormais, chaque matin, lorsqu'ils ouvrent grand leurs volets tournés vers le levant, ce n'est plus un parterre de bois et de cimes qui touchent l'horizon et se confondent avec le ciel, mais un carreau de vigne dressé sur échalas, entremêlé l'été, laissant à nu leurs bois l'hiver, qui s'étendent sous leurs pieds et s'offrent au regard. Sur ce petit îlot de vigne fraîchement éclose qui entoure la maison, Florence et Jean-Charles ont bâti leur bonheur. Quelques hectares domestiqués pour produire du vin blanc et du vin rouge en colline rhodanienne. C'est là qu'ils m'accueillent, au creux de leur vie familiale où je me sens si bien et l'esprit au repos. Ce sont alors des discussions interminables dans la cuisine, bouteille après bouteille, tout le long du jour et jusqu'au soir, juste interrompues par un tour de vignoble et bien sûr, l'exhaustif inventaire de cave, barrique après barrique, cuve après cuve, consciencieusement. Comme certains bâtissent des châteaux en Espagne, Florence et Jean-Charles avaient d'abord formulé le souhait de dessiner des terrasses à l'italienne, comme un jardin d'Éden. Florence souhaitait juste apprivoiser la nature, s'approprier les friches et tracer, comme elle dit, une jolie promenade. D'un désir esthétique en est né un autre, plus grand encore. Les premiers rangs de vignes, alignés sous la maison, marquent le début de leur rêve. Ils se souviennent et me partagent leur joie. C'était le 1er avril 2015, on les regardait de la fenêtre de la salle de bain. Le respect de la nature et du vivant semblait une évidence pour préserver l'harmonie et la quiétude du lieu. Florence et Jean-Charles ont dès le départ fait un choix important liant permaculture, agroforesterie et biodynamie. Les terres sont entièrement travaillées à la main, au treuil et au chenillard, et les travaux ne manquent pas. Taille respectueuse du flux de sève, relevage sur échalas, aucun rognage dans le but de laisser la plante achever tranquillement et à son rythme son cycle végétatif, enroulement, tressage, enherbement, paillage. Toutes ces techniques ancestrales et contraignantes, parce qu'elles demandent du temps et des bras, sont ici employées. Tisane, décoction de plantes et dynamisation sont aussi utilisées, calées sur le calendrier lunaire, en fonction des besoins, et individualisées pour chaque parcelle. Voilà déjà 2 millésimes accomplis, un travail de titan pour sortir de terre l'accomplissement d'une vie. Je tire d'un carton une bouteille du château Le Devet. La cuvée entre les murs. Heureuse coïncidence. C'est un vin blanc du cépage Vionnier de l'année 2018. Il patiente là avec les deux autres blancs de la propriété que j'ai promis de faire goûter à deux de mes amis qui auront, je l'espère, la même joie que moi à leur découverte. Je vais chercher mon tire-bouchon, j'attrape un verre à dégustation, je m'installe et je l'ouvre. Puis je verse lentement le vin. La première gorgée me fait immédiatement plonger aux côtés de mes amis qui l'ont fait naître. Je mesure leurs heures de travail, leur renoncement et leur patience. Je me rappelle leurs mots, leur élan, leur enthousiasme, leurs moments de doute aussi, leur joie surtout lorsque, au vendange 2017, les premières grappes ont été coupées et pressées. Une minuscule récolte, triomphe lilliputien d'un acharnement risqué. Cette cuvée entre les murs élargit mon horizon, un vin comme un passe-muraille qui m'évade et me jette, par la pensée et par le goût, hors les murs justement, au-delà des limites du confinement, par-dessus la ville et le pays tout entier. Je lis les mots inscrits sur la contre-étiquette. C'est dans une nature préservée que nous avons donné vie à ce terroir oublié des bordures de Vienne. Quelques hectares défrichés dans un cirque naturel de bois et de forêts. Et la joie de travailler à main d'homme et en biodynamie ces sols de schiste, rudes et cassants, qui donnent sur ces coteaux d'altitude des vins toujours plus frais et plus tendus qu'ailleurs. Ce sont des coteaux qui plongent dans le vallon, tout autour de la propriété, cintrant le paysage de leurs pentes abruptes. Les roches de schiste et micaschiste forment l'essentiel des surfaces et je ressens cette empreinte du sol à chaque gorgée, une droiture indélébile. Ce sont les mêmes terroirs que l'on retrouve un peu plus loin, sur les versants de côtes rôties. Ce terroir oublié, en bordure de Vienne, face à ses suelles, n'est en effet distant de l'appellation reine que d'un petit kilomètre. Je me penche à nouveau sur mon verre. Le Viognier n'est pas mon cépage préféré. Trop violent, trop démonstratif, il tourne souvent court, vite étouffé par des parfums entêtants, d'abricots, de pêches blanches, qui m'ennuient parce que justement, immédiatement identifiable, il ne laisse aucune place ni au doute ni à la rêverie. J'aime les blancs ciselés, épurés, traçants, les vins d'imaginaire. Je guette la précision, la droiture, le silence. Le reflet argenté de la lame du samouraï, aucun dépassement, l'alignement total, et soudain l'évasion. Je retrouve ces sensations dans les vignobles septentrionaux, un peu moins nécessairement dans les régions plus sudistes, sauf exception, il y en a forcément. Les blancs du Devet connaissent cette élégance et cette modestie, cet appel du dehors, attendent vers quelque chose qui les dépasse. L'idée d'abondance inutile les effraie. J'écris dans la douceur du soir qui tombe. On dit que la nuit tombe, et moi je me relève. Je vais à sa rencontre, ou bien son inspiration qui parvient jusqu'à moi, je ne sais. Toujours est-il que c'est souvent le soir que les mots me parviennent. Ils se bousculent dans ma tête et j'ai la flemme de me relever et de les noter. Alors je fais comme j'ai toujours fait lorsque, enfant, je craignais au jour nouveau d'oublier mes obligations et que je me répétais jusqu'à m'endormir toute la liste de ce que je devrais faire le lendemain. Je me rappelle les mots qui sonnent aux portes de mon esprit, je les mémorise, je vois les phrases qui s'écrivent devant mes yeux fermés. Les mots s'alignent les uns à la suite des autres et je les apprends par cœur, confiant à ma mémoire, dans une totale délégation, le soin de tout ordonner pour qu'au petit matin, la liste soit suffisamment propre et nette pour qu'il me faille uniquement la recopier en m'asseyant à mon bureau. Je suis allongé et les mots me transpercent. Il y a toujours cette contradiction des abscisses et des ordonnées, du vertical et de l'horizontal. J'aime la verticalité dans les vins. Et les vins du Devet sont verticaux. Nés de vignes qui regardent vers le ciel et tendent leur feuillage vers la lumière. Je me suis rendu plusieurs fois au domaine, je peux dire que je connais le lieu, même si pour ceux qui me connaissent, savoir situer les parcelles les unes par rapport aux autres est pour moi un exercice difficile, voire impossible, qu'il me faut répéter de nombreuses fois l'agencement et la continuité des endroits, jouer de subterfuges et de moyens mnémotechniques pour pouvoir me repérer. Mais la sensation du lieu, cette sensation d'existence et d'appartenance à un espace, je la capte et la ressens. Si je ne me rappelle pas les visages, si les paysages restent flous dans ma mémoire et que les lieux se superposent, se mélangent, se décentrent sans cesse quand je veux les retrouver, que l'un efface le précédent, je me rappelle encore certaines sensations. La terre qui s'enfonce sous le pas, le vent qui souffle fort, saturant mes oreilles, le soleil trop féroce ce jour-là, le sol trop glissant, la matinée trop humide, la pluie fine qui ne s'interrompt pas, et ma mauvaise humeur. J'ai plusieurs fois fait le tour des vignes et parcouru les parcelles. À chaque fois, Jean-Charles me guide et m'explique, et chaque fois son discours est différent, parce que la vigne a poussé, que l'année n'est pas la même, que là les chevreuils ont grignoté les premiers bourgeons, que les sangliers ont menacé de passer en force ou que simplement, nous sommes au printemps et que l'herbe a poussé, ou qu'en janvier, les ceps nous révèlent leur fragilité et leur certitude à porter bientôt des fruits. Alors son discours change, se modèle sur le lieu et suit la ligne du paysage. Il est insatiable, habité d'une joie profonde, une étincelle de bonheur qui m'irradie. Les saisons qui passent semblent couler dans chacun de ses mots et n'exister que par le son de sa voix. Pendant le confinement, il me raconte ses nouvelles plantations, la taille de ses pommiers, au bord du chemin, dans le silence des absents. Il a ébourgeonné ses vignes, mais laissé fleurir les rangs enherbés pour profiter de leurs mille couleurs. Et puis la veille du dimanche de Pâques, Florence me dit qu'un arbre de Judée s'est penché sur le devet, courbant ses branches pour toucher les vignes, les effleurer et les consoler peut-être comme il nous consolerait, offrant ses fleurs pour nous faire oublier d'être parfois loin de ceux que l'on aime. Dans les villes, nous avons vite fait d'effacer la nature et de ne plus sentir les effets des saisons. Au devet, le temps est ralenti, mis au pas d'une nature qui se transforme chaque jour sous nos yeux. Et moi aussi, lorsque j'y séjourne, je me plie à son pas. Retenu dans ce cocon, je coule des jours paisibles. C'est un jardin d'Éden où fruits et connaissances se confondent. Et chaque jour, il y a un soir, chaque jour un matin. Même après le confinement, il y aura toujours un soir qui tombera sur le devet, un matin qui se lèvera pour lui. Alors je m'imagine chaque matin comme le premier jour. Le début de la création, où tout reste à vivre, comme les vignes du devet qui, de la fenêtre de ma chambre où je les regarde, offrent à mes yeux un océan d'êtres vivants, des ceps qui souffrent à la lumière et au vent, une multitude tournée vers le ciel qui n'attend rien d'autre que de croître et de grandir. Et dans cette nature éveillée, je songe au peu dont nous avons besoin, juste de cela, regarder la lumière. »